la Bible. Et c'est autour de ce message-là donc s'est fondée, s'est articulée la construction de l'identité protestante depuis le XVIe siècle. Mais les protestants ont aussi parlé via la poésie. Les protestants ont aussi parlé au travers de textes, et de textes polémiques, notamment contre le catholicisme ou en rapport avec le catholicisme, mais pas seulement, aussi avec les athées ou avec d'autres religions. Je pense ici notamment à un texte polémique très, très virulent de Luther sur les juifs que vous connaissez peut-être. Et puis, les protestants ont parlé aussi au travers du témoignage, je pense ici au récit missionnaire, et notamment à l'œuvre de quelqu'un que vous connaissez aussi certainement, qu'on appelle le docteur Livingstone, hein, et tout son périple en Afrique. Donc nous essaierons, au cours de cette année, de décliner ces diverses manières qu'ont eu les protestants de parler, et puis nous avons commencé finalement ce cycle à Alès, avec une conférence un peu étonnante, puisque nous avons parlé cette fois de la parole muselée dans le protestantisme, car si les protestants n'ont pas toujours pu parler en France, ils ont aussi parfois, dans d'autres régions de France ou dans d'autres régions du monde, empêché d'autres protestants de parler. Et vous comprenez ici que je pense aux anabaptistes, hein, que les luthériens comme les calvinistes hein, ont persécuté et qu'ils ont, pour les empêcher de parler, qu'ils ont noyé littéralement. Bien. Donc, ce soir, nous commençons ce cycle à Paris, cette fois, avec quelqu'un qui a effectivement parlé, qui n'a pas été muselé, même s'il a eu des oppositions, hein, avec Ricoeur. Hein, et donc, le thème de la conférence de ce soir, qui est une conférence à deux voix, hein, c'est aborder cette thématique de parler avec Ricoeur, car Ricoeur, hein, Paul Ricoeur, ce philosophe, qui est un des grands philosophes du XXe siècle, s'est beaucoup intéressé à la question du langage, s'est beaucoup intéressé à la question, évidemment, de la parole, et ici, dans les deux sens du terme, hein, la manière de parler, l'interprétation autour de la langue écrite, via les symboles, ce qu'il a développé ensuite, lui, avec aussi la poétique, et, mais aussi s'intéresser beaucoup à la question de la parole, et là, j'entends par ce terme, le texte biblique. Et il a beaucoup dialogué aussi hein, avec le texte biblique. Et si, dans un premier temps, je pense que François Doss va aborder toute cette question de la parole chez Ricoeur, peut-être une parole plus philosophique, hein, au sens strict, eh bien, Henri Blocher, je pense, abordera plutôt, mais je m'avance peut-être, on le verra au cours de la conférence, ce sera pour vous comme pour moi la surprise, eh bien, abordera peut-être plutôt la question de l'interprétation chez Ricoeur, notamment autour de ce thème qu'il a intitulé lui-même « Le conflit des interprétations » et puis la question du mal, hein, qui était une question récurrente chez Ricoeur, notamment liée hein, à son propre parcours biographique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je laisse tout de suite la parole à François Doss pour 20 minutes à peu près d'intervention, et puis ensuite on enchaînera, si notre orateur nous rejoint, avec 20 autres minutes d'intervention d'Henri Blocher, et puis après quoi, on vous laissera intervenir à votre tour pendant une vingtaine d'autres minutes. Hein, on pourra dialoguer autour des deux interventions, hein, et vous pourrez demander des éclaircissements, des lumières hein, sur ce qui aura été abordé. Puis on se propose de terminer cette soirée avec vous hein, autour d'une collation que nos amis ont préparée à votre attention. Voilà, je laisse tout de suite la parole à François.
Bien, d'abord, un grand merci, Franck Belloir, pour cette invitation qui m'honore, d'autant que je suis absolument pas, disons, du sérail protestant. Donc là, j'interviens un peu en extériorité, en espérant d'ailleurs que Henri Blocher, puisque vous parliez de noyade, ne s'est pas noyé dans une station du RER par ces temps d'inondation, fut-il anabaptiste. Et donc, on espère quand même son arrivée.
Bien sûr.
Mais c'est l'horizon d'attente. Hein, et chez Ricoeur, l'horizon d'attente est toujours là, hein, et toujours devant nous. Il arrive difficilement. Mais.
Et, alors, on espère que ce sera plus qu'un horizon d'attente.
On espère. Et alors, donc, vous m'avez demandé de parler de Ricoeur comme philosophe de la parole. Ce que j'ai trouvé judicieux comme titre, je dirais plus judicieux que cette belle affiche qui nous présente « Parler avec Ricoeur » parce que Malheureusement, nous ne pouvons plus parler avec Ricoeur, qui a disparu en 2005, comme vous le savez. Et il se trouve que, évidemment, c'est un grand malheur de ne plus pouvoir parler avec lui. J'ai eu effectivement la chance de le connaître, mais très tardivement, puisque c'est à l'occasion de la sortie de ma biographie en 1997 que je suis, j'ai été amené à sa demande à le rencontrer. Il avait jusque-là tenu à ce que qu'on ne se voit pas. J'avais demandé, parce que j'avais été très séduit par son œuvre, je ne le connaissais pas personnellement. Il m'avait un peu éconduit dans un premier temps, parce que je lui avais dit que j'avais l'intention, en historien, car je ne suis pas philosophe, de faire une biographie intellectuelle de son parcours dans le siècle. Et il m'avait dit, je vois pas d'inconvénient à ce que vous travaillez sur moi, mais des amis d'ailleurs travaillent sur moi. Olivier Mongin préparait un livre sur Ricoeur pour Le Seuil, mais ils ont la bonne idée de me laisser à l'écart de leur travail. Et donc j'ai bien compris le message, je n'ai pas forcé la porte, et donc je ne l'ai connu qu'après la publication de ma biographie, où j'étais coupé de lui, ce qui a été différent après, mais on en reparlera peut-être. Donc, philosophe de la parole, c'est en effet extrêmement judicieux, parce qu'on peut le dire de Paul Ricoeur. Et je commencerai en disant que c'est le philosophe de la parole, et en même temps, c'est pourquoi j'ai fait ce livre du en même temps avec notre président, puisque, et on y reviendra peut-être dans la discussion, la marque chez notre président de Paul Ricoeur est tout à fait, est pas du tout usurpée, est tout à fait importante. Et le en même temps est très ricœurien. C'est-à-dire que dire c'est un philosophe de la parole, c'est vrai, mais c'est en partie faux, parce que c'est un philosophe de la parole et de l'écriture. Et donc là, il y a cette tension entre la parole et le texte et l'écrit. Et lui, dans cette tension, il tient les deux pôles, et l'écriture et la tension, comme vous l'avez dit, au langage et aux règles du langage, et en même temps à la parole comme acte. Et alors la parole lui permet d'être toute sa vie très attentif au kairos, à l'événement. Et c'est en ce sens où c'est un philosophe qui n'est pas un philosophe de salon ou simplement enfermé dans un cénacle, mais qui va être un philosophe dans la cité et prendre en compte tous les enjeux qu'il va traverser, les enjeux politiques, les enjeux idéologiques, les enjeux philosophiques, qui sont à l'articulation justement de cet acte de parole qui est une articulation entre le dire et le faire. Le dire et le faire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait majeur. Il est entre le dire et le faire. Ce qui renvoie d'ailleurs aussi à la posture de notre président, mais ça, on y reviendra peut-être. Et en même temps, c'est un herméneute, et il est connu comme tel. Bon, l'herméneutique a beaucoup compté pour lui, on y reviendra. Il y a eu ce qu'il a appelé la greffe herméneutique sur son programme phénoménologique. Et donc là, l'importance, évidemment, de la textualité. Alors, la première intervention que j'ai notée en tant que telle sur la parole est une intervention... Alors, là, je ne parle pas du Ricoeur philosophe, parce que là, on peut en trouver de plus anciennes, protestant, pratiquant, et réfléchissant à la question de la parole, sur laquelle je reviendrai un petit peu. C'est pas ma spécialité, mais dans ses articles sur la cité, etc., il a fait une intervention en 1953 dans la revue Esprit qui s'appelle Travail et parole. Alors, c'est déjà une intervention très très intéressante. On est dans un tout autre contexte, évidemment, en 1953, et finalement il intervient ici contre le fétichisme du travail, disant que le travail est tout à fait important pour la réalisation de l'homme, de ses facultés, du faire, de la fabrique, Et en même temps, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et il est d'ailleurs dans ce texte en situation un peu polémique et critique. Et là, il faut changer l'image qu'on a d'un Ricoeur purement œcuménique. Hein. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui n'hésite pas à riposter, à se battre pour faire valoir ce qu'il pense. Il est au sein de la Revue d'Esprit, un petit peu en confrontation avec le groupe de Grenoble et de Lyon, autour de l'économiste Henri Bartoli et d'un courant d'esprit qui défend ce qu'ils appelaient à l'époque, en 1952, la civilisation du travail, et dans le cadre d'un compagnonnage avec le marxisme et, disons, l'accompagnonnage de la Revue Esprit, disons, depuis la Libération, avec le mouvement communiste qui était très important dans ces années 50, même si quand il commençait à s'ossifier, à se staliniser, évidemment. Mais il y avait eu la Libération, la Résistance, les FTP. Donc il y a eu ce compagnonnage. Et donc en 53, Ricoeur intervient là davantage sur les positions qui sont celles de Jean-Marie Domnach dans la revue et qui prennent leur distance avec le marxisme et la fétichisation du travail. Il écrit « La parole sera pour nous cette autre parmi d'autres qui justifie et qui conteste la gloire du travail ». Qui justifie et qui conteste, donc qui est à distance aussi critique de l'action de travail dans la cité. Alors, en même temps, on a là déjà un Ricoeur, je ne veux pas faire de la téléologie, voir déjà en 1953 un Ricoeur qui sera l'introducteur de la philosophie analytique dans les années 80, mais quand même, on peut voir ici déjà un Ricoeur qui est pas loin d'une pragmatique du langage et qui valorise la praxis, la pratique et le versant parole. Une partie d'ailleurs de son article de 53 s'appelle « Faire et dire ». Faire pour le pragmatique, dire la parole. Et je vous rappelle que un des grands pragmaticiens anglo-saxons, spécialiste du langage, Austin, a écrit un livre dont la traduction française est « Dire, c'est faire ». C'est pour mettre en corrélation quelque chose qui voilà, est déjà une intuition ricœurienne dans les années 50 et qui sera ensuite développée dans la philosophie analytique. Donc, vous avez, dit Ricoeur, en amont du travail, la parole, qui est à la fois en amont, avant le travail, et après le travail, en aval, dans la reprise réflexive sur le sens du travail. Donc, la parole crée un espace d'une distance critique nécessaire pour poser la question, qui est majeure toujours chez Ricoeur, qui est la question du sens. Bon, la question du sens qu'on va retrouver tout au long de son travail. La parole est aussi un entre-deux, l'entre-deux, le vecteur du dialogue, qui ouvre, et ça c'est toujours chez Ricoeur une posture fondamentale, qui ouvre, et vous avez prononcé le mot qui convient, qui ouvre sur une poétique, c'est-à-dire qui ouvre sur des possibles, d'un imaginaire. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, mais qui va être de plus en plus sur Ricoeur, puisqu'on va être publié un livre seuil sur un certain nombre de cours qu'il a donné sur l'imagination aux États-Unis. Ils sont plus traduits, c'est des cours qu'il a donné en anglais, traduits en français. Mais ça a déjà été le cas sur l'idéologie et l'utopie, hein, qui a été traduit de l'anglais en français. Sur l'imagination, et on va voir à quel point, mais c'est très très important, la notion, le concept d'imagination chez Ricoeur. Alors, je dirais qu'il a traversé une période où on a eu tendance, avec le succès du structuralisme, dans les années 60, on s'apprête d'ailleurs, ce qui ne me rajeunit pas, à fêter les 50 ans de 68, Quelqu'un me disait d'ailleurs qu'en 68, on fêtait 1918. Et vous imaginez, en 68, hein, 18. Donc l'éloignement temporel, ce qui est absolument incroyable,
voilà, monsieur Clocher, hein,
qui est, revient des eaux, des forêts. Vous avez pu surnager, alors.
C'est pas les inondations. Ils ont dit des personnes sur la voie, mais j'ai été retardé une heure à vous bloquer.
Eh oui.
Bienvenue. Ben, on est content de vous avoir.
Excusez-moi, excusez la RATP.
Non, mais les conditions sont exceptionnelles, là, quand même. Avec le déluge. C'est un moment où on a, dans le structuralisme, qui était un succès phénoménal dans les années 60, tout le monde était structuraliste. Enfin, Foucault disait que c'était le regard éveillé, inquiet de la conscience moderne. Donc il n'y avait pas d'extériorité au structuralisme. Période qu'a traversé Ricoeur. À la fois pour en prendre la fécondité et en même temps avoir cette distance critique par rapport à toute forme d'hypostase, de fétichisme, et là de fétichisme justement, des règles du langage par rapport à la parole. Voilà. Et donc là, il s'est trouvé même pris dans une alternative avec d'un côté Claude Lévi-Strauss sur la question de la parole et de l'écriture, et de l'autre, Derrida. Et là, vous avez deux positions opposées. Celle de Lévi-Strauss, qui, dans Triste Tropique, a un chapitre sur le rôle de l'écriture, qui s'appelle très précisément la leçon d'écriture. Or, qu'est-ce que nous dit Lévi-Strauss ? Eh bien, il nous dit, vous savez, Triste Tropique a été un best-seller, qui raconte la vie des Indiens Kaduveo, Nambiquara, Bororo, etc. Or, ce que nous dit Lévi-Strauss, c'est que l'écriture a cassé tout ce monde. L'écriture arrivée chez les Nambiquara porte en elle-même l'asservissement, l'exploitation, la perfidie, le début de la fin. D'une humanité qui était belle. Et Lévi-Strauss fait valoir dans son modèle un modèle phonologique qu'il a pris à New York chez Jacobson. Bon. De son côté, Derrida va dénoncer le refoulement et la position inverse de l'écriture au profit d'un logocentrisme, au profit d'une phonologisme. Et Derrida, tout en partageant avec Lévi-Strauss le souci de sortir de l'ethnocentrisme, de sortir de l'occidentalocentrisme pour laisser place à l'autre et à d'autres civilisations, là Derrida suit évidemment la leçon lévi-straussienne, il considère que Lévi-Strauss a échoué et en se contentant finalement de réactiver la pensée du XVIIIe siècle, celle de Rousseau, et c'est ce qu'il écrit dans Lévi-Strauss, dans le XVIIIe siècle, texte qu'il reprendra dans De la grammatologie en 1967. Et Derrida déconstruit donc, avant de déconstruire d'ailleurs Foucault, hein, il déconstruit Lévi-Strauss en disant que voilà, on a une pensée lévi-straussienne qui fétichise, qui absolutise une parole transparente, innocente, et qui la valorise par rapport à l'écriture, alors qu'on a évacué l'écriture. Eh bien, je dirais que la position de Ricoeur est une position, là, du « en même temps », du « entre-deux ». C'est la position de l'écriture, comme je le disais au départ, et de la parole, de penser l'unité de ces deux pôles que sont d'une part la langue et son système, pour reprendre le terme de Saussure, et la parole. Le signe avec le sens. C'est d'ailleurs, il y a un très beau texte que vous trouverez dans l'Encyclopédia Universalis qui s'appelle « Signe et sens ». C'est là où, évidemment, j'ai trouvé c'est ma rencontre avec Ricoeur, avec le texte de Ricoeur, puisque, ayant écrit une longue histoire du structuralisme, dont le sous-titre était « Le chant du signe », premier tome, et puis le deuxième tome, c'était « CY », CHANT, pour le déclin du structuralisme, eh bien, mon idée, c'était que le signe ne pouvait pas se penser sans le sens. Et c'est là où j'ai trouvé dans Ricoeur la réponse à la question que je me posais, bien sûr. Et dans ce texte de l'Encyclopédie universelle, et dans toute, évidemment, son œuvre. Chez Ricoeur, vous avez en effet une critique de la coupure saussurienne, principielle pour le paradigme structuraliste, qui est la coupure saussurienne qui sépare le système de la langue, d'où relève une discipline, qui est la discipline pilote du structuralisme, qui est la linguistique, d'un ailleurs qui est refoulé comme non scientifique, qui est justement la parole, qui est l'acte de langage. La parole est hors système. Elle renvoie à l'aléatoire, elle renvoie à ce qui ne peut pas être prévu, elle renvoie à quelque chose qui est hors du système de la langue. Eh bien, Ricoeur va essayer de penser justement l'articulation des deux et la spécificité, la singularité des deux. Sur ce plan, il a été dans le structuralisme, je dirais, ce qu'il a dit de Michel de Certeau, c'est-à-dire qu'il a été un outsider du dedans. Travailler à l'intérieur du paradigme, à sa transformation et à la fois l'appropriation de son apport. Alors, sur l'appropriation de l'apport, effectivement, le tournant langagier, textuel, herméneutique, on n'a pas le temps là de développer, mais a été pris très précisément d'ailleurs, le texte a été d'abord publié dans Esprit en 59, c'est le symbole donne à penser. Et là, vous avez effectivement le début de ce qui va être, ce qui va appeler la traversée des penseurs du soupçon, ce qui va appeler la greffe herméneutique sur le programme phénoménologique, et qui va amener, on est en 59-60, par exemple, sa traversée de l'œuvre freudienne, puisque il va, on y reviendra peut-être dans la discussion, j'ai pas le temps là de développer comment il a été reçu par les lacaniens, mais il va se donner 5 ans de plonger dans le corpus de l'œuvre de Freud de 60 à 65, le congrès de Bonneval a sorti de l'interprétation et c'est sur Freud, qui ne lui fera pas que des amis, mais qui, justement, est pour lui une nécessité par rapport à la question qu'il se posait du volontaire et de l'involontaire, hein, dans sa thèse sur la phénoménologie de la volonté, et donc la nécessité de passer par les symboles, par le texte, par le travail du texte sur le symbole, et de phénomènes inconscients, de phénomènes involontaires, qui ne passent pas par la transparence supposée du sujet. Bon. Eh bien, là, il va prendre très très au sérieux cela, et tout au long de son œuvre, dans l'idée de ce qu'il va appeler de plus en plus l'expliquer comprendre. Il va effectivement publier un texte sur expliquer et comprendre, bon, et puis les sciences de l'expliquer, les sciences de la compréhension, toute l'aigle là, d'Ilteilien, etc., qu'il va reprendre, mais finalement, il va aussi déplacer les choses et dans la mémoire, l'histoire l'oublie, son expliquer comprendre comprend une barre qui est une barre en fait de circularité. Il y a une espèce de cercle herméneutique qui fait qu'on explique plus pour comprendre mieux, et l'un est mu par l'autre. Donc on a là un cercle vertueux qui va être sa manière de penser. Et il va trouver un allié sur le plan linguistique dans les années 60. Qui est Benveniste. Effectivement, une des figures de proue de la linguistique à l'époque, c'est les problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste. Alors en quoi c'est un allié pour Ricoeur? Parce que Benveniste s'est intéressé à l'énonciation, donc à la parole, là. C'est-à-dire qu'il réfléchit sur ce qu'est une linguistique de l'énonciation, et évidemment Ricoeur va être très intéressé, il va introduire dans ses cours d'ailleurs Benveniste, qui était à l'époque peu connu. Il sera sorti de son petit cénacle du Collège de France où il y a 5 personnes qui le suivent par Nora, qui va en 1966 lancer la Bibliothèque des sciences humaines et qui va sortir les problèmes de linguistique générale. Et anecdote assez drôle, un jour Pierre Nora téléphone à Benveniste en lui disant « Écoutez, c'est extraordinaire, votre livre est épuisé, nous rééditons. » Et Benveniste de répondre, vous mentez, monsieur. Il ne l'a pas cru. Mentez. Alors, Pierre Nora, écoutez, je peux vous donner les pièces de. Je viens de signer la réimpression de votre livre. Je peux vous dire qu'il est totalement épuisé. Ah, monsieur, je m'assois. Mon cœur bat trop fort. Je peux vous dire, c'est absolument invraisemblable. Bon, un livre très difficile, évidemment. Et d'un Ricoeur qui va, vous savez, il va lancer aussi une collection au Seuil en 65, qui existe toujours, la collection, qui s'appelle L'Ordre philosophique, qui a été lancée par François Varl, qui était par ailleurs l'ami de Roland Barthes, l'ami de Lacan, l'ami de tel quel, etc. Bon. Et le Solaire, c'est autre. Et François Varl va lancer cette collection avec Ricoeur, L'Ordre philosophique, en 65. Or, il est intéressant, à propos de la parole, de noter que c'est Ricoeur, dans sa collection, qui va publier Austin, dont j'ai parlé, hein, Dire, c'est faire. Que c'est lui qui va publier Strawson, Harris, Benveniste aussi, donc justement cette linguistique qui tient compte de l'événement, qui tient compte de la parole et qui ne l'a pas exclu, contrairement à, au paradigme, disons, saussurien, qui était la base. Barthes c'était évidemment le modèle sémiologique, s'appuyait sur Saussure, avec son mentor qui était Algirdas, Julien Grémas. Alors, bon, je voulais vous parler, mais là, on y reviendra peut-être dans la discussion, parce que je ne veux pas non plus empiéter trop sur un temps que j'ai déjà débordé, mais le dialogue avec Claude Lévi-Strauss, qui est tout à fait important, qui va avoir lieu en 63, c'est un dialogue de sourds, mais en même temps intéressant. Je dirais que, mais là, je parle devant des spécialistes, c'est pas du tout mon domaine, mais que son herméneutique, là sur le plan religieux et du protestantisme, a fait place à la parole aussi, quand on voit son évolution d'un protestant qui a été barthien dans l'après-guerre, comme beaucoup de la génération qui sortent de la guerre, qui a été très marqué ensuite par Bultmann, et effectivement, là, tout le travail de démythologisation de Bultmann a été consonné avec son propre travail philosophique, qui a eu là un regain d'intérêt pour la lecture biblique, et effectivement, Ricoeur s'est toujours dit plus proche des biblistes que des théologiens, et il a, vous le savez, publié avec son ami américain bibliste André Lacocq un livre qui s'appelle justement « Penser la Bible » où vous avez effectivement le point de vue du théologien et le point de vue du philosophe. Et Ricoeur a donc loué les mérites de Bultmann qui a valorisé le travail textuel qui permettait de rompre avec toutes les formes de fondamentalisme et de traditionnalisme grâce à ce travail de démythologisation. Ce travail de démythologisation correspondait très bien à l'esprit des années 60, la philosophie du soupçon. On commençait par démythologiser. Et Ricoeur a écrit la préface du Jésus, écrit par Bultmann, qui est paru d'ailleurs au Seuil, il y a 50 ans, donc en 68. C'est lui qui l'a préfacé. Ce travail herméneutique fait place à la parole dans la mesure où il s'agit de retrouver les traces écrites en paroles vivantes pour les contemporains. Donc déjà, il y a cette transformation de l'écriture en ce qu'elle nous parle au présent dans les communautés confessantes. Et puis il y a un travail en deux temps qui est le travail négatif de décapage du mythe, hein, de démythologisation. Et puis il y a le volet positif qui est de faire affleurer sous le sens apparent une signification seconde. Donc tout ce travail a été extrêmement important et accompagné, ce tournant langagier marqué aussi par Heidegger. Mann a été aussi un disciple d'Heidegger. Et puis il y a un autre théologien qui a beaucoup compté pour Ricoeur dans ces années-là et qui justement a le mettait en garde contre le textualisme coupé de la parole, contre un travail herméneutique qui se coupait un peu de la parole, c'est Gerhard Hebling, dans la mesure où lui a beaucoup plus insisté justement sur la question de la parole comme justement contre-feu au structuralisme, au succès du structuralisme dans ces années 60. Et donc il y a eu là une relance de l'herméneutique par une actualisation justement de la parole, d'une parole devenue texte et devant redevenir parole. Donc c'est double processus de transformation. Et puis je terminerai avant de laisser la place donc à Henri Blocher, je terminerai sur le cinquantenaire que nous nous apprêtons à très rapidement à commémorer, parce que on a beaucoup fait de confusion à propos de Ricoeur sur 68. La plupart des gens, y compris qui connaissent bien Ricoeur, on se parle récemment à Olivier Mongin dans une émission où j'étais avec lui à France Inter, rapproche là, c'est vrai que c'est une période lointaine, hein, 50 ans, notre mémoire peut défaillir, confondent un peu 68 et 70. La situation n'est pas tout à fait la même. En 68 et 70, et la situation de Ricoeur n'est pas tout à fait la même. Là, on confond, si vous voulez, le doyen de l'université de Nanterre avec la poubelle sur la tête, hein, qui lui est resté une marque infamante, etc. On pourra y revenir tout à l'heure, mais enfin, ça a été monté aussi en épingle un peu intentionnellement. Mais Ricoeur, on a essuyé les copeaux. Alors, un moment difficile qui a été l'échec de la gestion de l'université de Nanterre en tant que doyen, en tant que recteur. Là, effectivement, la situation a été un échec. Pas seulement l'histoire de la poubelle, mais c'est surtout l'histoire de la banalisation du campus et du nombre de blessés, près de 200. Et là, les affrontements ont été très violents. Mais quand on pense à 68, et donc à mai 68, Ricoeur est alors, non pas doyen, mais il dirige le département de philo de l'université de Nanterre, et il se trouve totalement en phase avec le mouvement qui s'exprime, le mouvement étudiant qui s'exprime en 68, pas seulement à Nanterre, je donne des exemples assez cocasses et épiques. À l'IPT par exemple, boulevard Arago, faculté de théologie protestante, là le degré de contestation avec des leaders que vous connaissez bien comme Jean Bobéro ou autre, là la radicalité était presque encore plus extrême qu'à Nanterre, la folie, c'est dire. Vous avez là un Ricoeur qui est très en phase avec ce qu'exprime le mouvement. Et même factuellement, il se trouve que lorsque Cohn-Bendit, étudiant en sociologie, est passé devant le conseil de discipline à la Sorbonne, risquant l'exclusion, et en plus risquant doublement, puisque, comme vous savez, à l'époque, il était de nationalité allemande, il sera d'ailleurs interdit de séjour, d'entrer en France, etc., il a trois avocats qui viennent défendre sa cause. Henri Lefebvre, Alain Touraine et Paul Ricoeur, qui défendent la cause de Daniel Cohn-Bendit. Et à chaud, Ricoeur analyse le mouvement qui est en train de se dérouler au cœur de l'événement, puisqu'il le fait dans trois articles qui paraissent en juin 68. C'est pour ça que je dis à chaud, on est encore dans l'effervescence. Le 9, 10 et 11 juin, pour être précis, dans Le Monde, textes qui sont repris dans lecture 1, verset 3, non, là, je présente. Lecture 1 de Paru au Seuil, qui sont une série d'articles, recueil d'articles de Ricoeur. Et il y salue une révolution culturelle, non pas au sens des gardes rouges hein, de Mao Tse-tung, hein, qui s'élève dans une société de consommation dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît pas, il ne reconnaît pas un sens de l'existence. Un mouvement qui est un mouvement qui est aussi bien un mouvement de critique du capitalisme que de critique de la bureaucratie. Hein, donc il voit bien le côté aussi de libération d'une certaine chape de plomb, qui n'est pas seulement la chape de plomb capitalistique, et que, nous dit Ricoeur, il faut préserver la tension, hein, c'est une pensée tensive, la pensée de Ricoeur, pensée des tensions, de pôles qui sont exogènes les uns aux autres, qui sont à penser, à distinguer et à penser ensemble. Et il faut penser la tension existante entre la voie réformiste et la voie révolutionnaire. Nous sommes entrés, dit-il, on est en juin 68, dans un temps où il faut faire du réformisme et rester révolutionnaire. Et rester révolutionnaire. En même temps, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de dessins pour vous dire que l'ouvrage de campagne du président s'appelait Révolution. Hein ? Et que, il n'a pas encore brûlé les voitures. Mais il a déjà commencé un certain nombre de réformes. Et donc, voilà. Donc, il y a une remise en cause que Ricoeur voit dans le mouvement de 68, de la relation hiérarchique, et notamment qu'il voit l'université entre enseignants et enseignés. Là, il reprend des analyses qu'il avait faites d'ailleurs dans Esprit en 64 sur la crise universitaire, et l'importance du dialogue, l'importance de la parole. Il ressent bien que cette jeunesse a besoin de prendre la parole. Et je terminerai presque là-dessus en disant qu'il est un autre historien-penseur qui a très bien compris le mouvement que j'évoquais au départ, qui est Michel de Certeau, qui a écrit au même moment en juin, en 68, « On a pris la parole ». Comme en 1789, on a pris la Bastille. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout une prise de parole. Et c'est là où ça consonne évidemment avec le thème de ce soir. Et il était pour que, effectivement, l'enseignant, dit-il, fournit plus qu'un savoir. Il apporte un vouloir. Un vouloir savoir, un vouloir dire, un vouloir être. Eh bien, il est pour une réforme de l'université, une plus grande autonomie de l'université, un plus grand dialogue entre enseignants et enseignés, car, dit-il, l'enseignant a à apprendre de l'enseigné presque autant que l'enseigné de l'enseignant, et tout ça pour ouvrir un nouveau monde pour... Citation de Ricoeur de juin 68, et je terminerai là-dessus, saisissez l'actualité, pour changer la vie. Merci.
Alors, sans transition, je laisse la parole à Henri Blocher pour la seconde intervention.
Merci. Je voudrais d'abord dire le plaisir que j'ai à revoir M. Doss.
Oui.
Et l'honneur qui est pour moi de pouvoir dialoguer avec lui ce soir et avec vous tous. Ce que j'ai à dire à propos de l'éclair ce soir, je le partage en deux moitiés et avec deux impulsions qui peuvent paraître quelque peu contraires. Le premier mouvement sera un mouvement dans lequel je dirai ma tête, ma gratitude, mon admiration. Et le deuxième mouvement mettra l'accent sur ce qui ne m'a pas persuadé, ce qui m'a même déçu dans les conclusions qu'il a atteintes, dans les thèses qu'il a défendues, de telle sorte que je ne peux suivre et que je suis obligé de dire, avec un écho luthérien, je ne puis autrement. La première partie, donc celle qui est une sorte d'hommage, vise plus spécialement l'homme, mais aussi sa manière de travailler, le style de sa pensée et bien des conclusions en même temps. En ce qui concerne la deuxième partie, plus critique, il s'agit essentiellement de son lien à cette adaptation du christianisme qu'on appelle de Yverdon, d'adaptation à la modernité, qui s'élabore, disons, à partir du XVIIe siècle, le XVIIIe étant un siècle tout à fait déterminant. Alors on l'appelle plutôt du côté protestant libéralisme, du côté catholique modernisme. Karl Barth, qui a été évoqué tout à l'heure, parlait de néo-protestantisme. C'est une autre expression qu'on peut employer. Je pense au fond que celle du modernisme est la plus significative, celle qui dit le mieux l'intention déterminante. Paul Ricoeur a vraiment adopté la posture et rempli le rôle de penseur du libéralisme protestant en France, pour le XXe siècle et peut-être pour toute l'histoire d'ailleurs du libéralisme protestant français, car il surclasse tous les autres qu'on pourrait nommer. Alors d'abord, l'homme tel que je l'ai un peu connu, je souligne que M. Doss est le biographe de Paul Ricoeur, que j'ai appris sur Paul Ricoeur bien des choses par la lecture de son grand livre. Il fournit de renseignements très très précis, particuliers, mais que pour la part que je connaissais déjà, alors elle entre tout à fait dans le portrait qu'a pu brosser notre conférencier de ce soir. Donc l'homme, je pense qu'on peut saluer d'abord, il me semble que c'est unanime, hein, la droiture, l'intégrité, le désintéressement de Paul Ricoeur. Parmi tous les grands intellectuels, il me semble que le respect est unanime. Et je pense qu'on peut dire que non seulement il s'est montré très désintéressé par rapport à toute ressource financière, ce genre d'éloignement de toute corruption, mais aussi par rapport à ses intérêts de carrière. Il s'est dévoué au bien des étudiants et c'est un symbole assez clair de ce désintéressement et de cet intérêt pour les étudiants que sa décision de quitter la Sorbonne, ce qui était dans l'université le point d'arrivée, pour aller dans cette nouvelle université qui s'édifiait en plein terrain vague dans la boue de Nanterre. Mais il voulait un cadre où il pourrait connaître davantage les étudiants, innover en matière pédagogique. C'est très très typique de Ricoeur. Un trait que je mentionne aussi à propos de cette carrière morale, c'est sa fidélité conjugale, plus de 60 ans, Je pense qu'il n'y a pas tellement de gens fameux dans notre monde de qui on peut dire la même chose, 60 ans avec la femme qu'il a épousée dans sa jeunesse. Et également, fidélité à ses amis, qui ont été très nombreux sur de nombreux continents, mais il est évident qu'il avait vraiment un regard spécial pour chacun d'eux. Le trait qui me semble encore l'emporter sur tous les autres, qui est très marqué et qui touche alors aussi à sa manière de philosopher, c'est la bienveillance. La bienveillance, je pense qu'il l'a portée à un degré extrême, peut-être excessif, je le dirai dans un instant, mais une bienveillance vraiment remarquable. Je me suis risqué, encore tout jeune, à des publications, ou bref, publications de critiques à son égard, et avec la conscience de la jeunesse, j'ai eu le langage que d'un homme vif. Il aurait pu m'en tenir rigueur, il aurait pu me foudroyer. Il ne l'a pas fait. Il a été extrêmement bienveillant à mon égard, alors que j'étais principalement critique de ses thèses. C'est quelque chose, quand même, d'assez remarquable. Et dans sa méthodologie philosophique, c'est ce qu'on remarque aussi. Il a pratiqué le Philosophieren, c'est un mot qu'il emprunte, je crois, à Jaspers, mais qui veut dire donc philosopher avec. Toujours philosopher avec d'autres philosophes. Et on a noté, je crois que ce sont ses deux premiers livres, en tout cas deux premiers livres importants, que chaque fois c'est un trio. Il a écrit avec son ami Michael Dufresne le livre sur Jaspers, et il a écrit lui seul, mais un livre sur à la fois Jaspers et Gabriel Marcel, duquel il avait reçu l'impulsion existentialiste déterminante, comme il a lui-même raconté à plusieurs reprises. Mais vous voyez, trois. Et il me semble que de plus en plus, au cours de sa carrière, ça a été sa méthode. Avancer en s'appuyant sur les écrits d'autres et en les faisant jouer l'un contre l'autre, ou disons en montrant que l'un pêchait trop d'un côté, l'autre trop de l'autre, mais qu'on pouvait trouver une via media ou une synthèse plus satisfaisante. Je pense par exemple à la manière dont il utilise Husserl et Lévinas, de ces deux façons symétriques, dans soi-même comme un autre, qui contient ces Gifford Lectures. Il y a des conférences extrêmement fameuses, et d'ailleurs aussi bien payées, qui se donne chaque année à Édimbourg et parfois dans d'autres universités d'Écosse, et ce sont les intellectuels les plus fameux, alors associés au monde chrétien quand même, qui, en fonction du testament qu'a laissé le milliardaire Gifford, prononce chaque année ses conférences. Et il a prononcé des conférences qui ont été publiées ensuite en français sous le titre « Soi-même comme un autre ». Eh bien, il montre que Husserl et Lévinas errent chacun d'un côté quant à la relation à l'autre. Husserl ne réussit pas à sortir du rapport à soi. Alors il essaie, mais il n'y réussit pas vraiment. Et Lévinas ne réussit pas à revenir à soi à partir d'une priorité donnée à l'autre. Et c'est typiquement la méthode de Ricoeur, de jouer de cette façon, au point que certains l'ont accusé d'éclectisme. Et j'ai remarqué que quand l'accusation d'éclectisme a été formulée, il a réagi très vivement. Il n'aimait vraiment pas ça. Mais on comprend que cette bienveillance systématique, M. Doss a donné un exemple dans la partie que j'ai pu entendre de ce qu'il nous a dit, avec le structuralisme. Il est considéré comme le seul de la grande tradition du « je pense », tradition réflexive qui a été inaugurée par Descartes, à avoir vraiment répondu au structuralisme, qui mettait en cause complètement cette philosophie du sujet. Et comment il l'a fait? Il l'a fait de sa manière typique, en montrant que, oui, on peut faire ce détour. L'image du détour est extrêmement fréquente chez lui. Il enrobe en quelque sorte l'opposition qui s'exprime à ses vues en montrant que dans le trajet de l'appropriation de soi, selon l'itinéraire, il faut faire ce détour, oui, mais il englobe, et en quelque sorte, le neutralise en même temps, de cette façon. Alors, j'ai tendance, mais cela fera partie de mon petit crédit tout à l'heure, j'ai tendance à penser quand même qu'il a trop accueilli, que cette bienveillance avait le caractère d'une candeur qui ignore la puissance du mensonge dans la culture humaine. Alors, je parle bien sûr en fonction de ma foi attachée à la Bible. Je pense que j'ai des avertissements sur la pensée selon ce siècle, selon l'âge, selon le monde, que Ricœur n'a pas voulu prendre, disons, avec la force qu'ils ont dans le Nouveau Testament. Donc, caractère moral remarquable, bienveillance, méthode d'association d'autres philosophes. Au service de cette méthode, il y a la patience de comprendre ce qu'ont dit les autres et de les réfuter point par point quand il n'est pas d'accord. Parce qu'il réfute quand même. Aussi, il montre des insuffisances. Ça aussi, c'est tout à fait remarquable. Et il le fait avec une courtoisie inhabituelle. Je n'ai lu dans... J'ai quand même lu beaucoup de choses de Ricœur, parce que je l'ai choisi comme le philosophe que j'essaierai de connaître dès que j'ai dans ma jeunesse. Je n'ai trouvé que deux passages où je trouve qu'il est en dessous de son niveau de courtoisie normale, où il caricature facilement. Alors, il caricature la notion orthodoxe de l'inspiration biblique. Comme si quelqu'un soufflait à l'oreille. Une caricature. Il est facile de la refuser comme il l'a fait à ce moment-là. Et puis, aussi, c'est dans un assez vieux texte, c'est dans Histoire et vérité, publié dans les années 50, mais c'est quand même très significatif à propos du péché originel, tel que la tradition l'a considéré. Il se moque en disant, j'ai la phrase ici, je crois, oui, en disant « Un singulier monsieur très ancien, tout seul avec sa femme dans son jardin, et qui aurait transmis par voie de génération physique sa méchanceté très singulière et très privée. » Bon, c'est trop facile, ça. Mais c'est tout à fait exceptionnel chez Ricœur. En général, il prend grand soin de tenir compte de la force des arguments que d'autres ont présentés, y compris les arguments des orthodoxes. Je ne me cache pas, je suis ce qu'on appelle un évangélique, mais je vais expliquer dans un instant ce que cela signifie. Ce qui m'a attiré en premier lieu vers Ricœur, c'est précisément que chez lui, je trouvais le signe qu'il avait saisi la force des arguments qui me semblent si puissants. Et que souvent, les libéraux traitent comme si, non, comme si c'était de la dénonce, rien du tout. Chez Ricœur, il y a une prise en compte. Alors finalement, il se conclut contre. Il croit pouvoir trouver suffisamment d'arguments. Il ne m'a pas persuadé sur ces points-là. Mais c'est, me semble-t-il, très significatif de cette attitude de bienveillance. Je donnerai deux exemples où donc je ne suis pas d'accord avec la méthode, mais où je pense qu'il fait de très grands efforts, comme je n'en ai pas trouvé chez d'autres auteurs qui professent le modernisme ou le modernisme un peu de même teneur que celui finalement auquel il a été associé. Sur le début de la Genèse, ça a beaucoup compté pour moi, je ne me cache pas. Sur le début de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, il a bien vu l'intention du texte. Il a bien vu que parmi tous les mythes, car il appelle cela le mythe d'Adam, c'est le seul parmi tous les mythes des nations dont il donne une typologie, c'est le seul qui disjoint l'origine de l'être et l'origine du mal. Le mal est survenu. Il est historique. Et il a cette petite phrase, c'est dans la symbolique du mal, le mal devient scandaleux en même temps qu'historique. Car s'il fait partie de l'être au début, pas vraiment trop s'indigner, parce que c'est assez sombre. Il a bien vu que c'est solidaire de la présentation du Dieu de l'Ancien Testament comme Dieu unique et moral, parfaitement juste dans toutes ses voies, et que c'est la base de l'appel à la conversion, à la repentance des prophètes. Il a vu tout cela, il le dit très bien. Finalement, quand même, il abandonne. Il cherche à sauvegarder le profit de sens, mais en abandonnant lui-même l'historicité. Il dit ce que nous savons, en homme de science, des débuts de l'humanité, ne laisse pas la place pour une chose pareille. Donc, voilà. Donc il l'exclut, avec une raison qui donne, qui ne me convient pas. Mais il a très bien vu la signification. Et il a si bien vu qu'en l'abandonnant, il dit finalement, il y a un autre mythe qui, quand on même laisse un résidu dans le mythe adamique, il y a un autre mythe qui est invincible, qui associe le mal à l'être, le mythe tragique, qui au bout du compte est le mythe du Dieu méchant. Car s'il y a du mal dans l'être, c'est le Dieu qui est responsable de l'être. Donc, il y a de la méchanceté en Dieu. Et Ricoeur dit, oui, il faut au bout du compte en ténébrer le divin. Il n'y a pas seulement lumière, il y a aussi de l'obscurité. Dans le récit d'Éden, le serpent représente cette dimension tragique d'un être. Vous voyez comment les choses se présentent. Moi, j'ai été très, très enthousiasmé par son analyse de l'intention du texte. Il a si bien discerné, puis en même temps, donc je n'ai pas pu le suivre, dans la manière dont il a conclu pour lui-même. Autre cas, c'est dans soi-même comme l'autre, dans ce qu'il appelle sa petite éthique, surtout qu'on trouve quant à la fondation de l'éthique. Il s'efforce de préserver, là aussi contre pas mal d'auteurs, une éthique du devoir, l'éthique déontologique. Déontologique vient du mot grec qui signifie devoir. Donc, une éthique déontologique. Il essaye de lui faire place. Mais il essaye en même temps de ne pas le considérer comme fondamental, de considérer que l'éthique doit dériver du désir d'être, qui est là le vrai fondement, ce qui fait que c'est d'abord une éthique du bonheur, de l'accomplissement de l'être, et il essaye de faire dériver son éthique déontologique, qui est en deuxième position, de cette éthique du désir d'être. Alors, je crois qu'il n'y arrive pas. Je crois que sa manière de tenter l'articulation échoue. Mais, vous voyez, j'apprécie qu'il ait voulu quand même préserver ce caractère de l'éthique. Et on pourrait aussi parler de son intérêt pour les institutions. Le désir d'être, il n'aboutira pas, sinon dans des institutions justes. Et il a une part de son éthique qui donne beaucoup de force à l'institution. D'ailleurs, j'ai relu pas mal de pages hier et aujourd'hui pour me préparer. J'ai relu ce qu'il dit à propos de son décanat à Nanterre. Et il dit qu'il était travaillé en fait par une tension interne, une sorte de contradiction entre, d'une part, son adhésion aux tendances de gauche plus assez libertaire qui se manifestait chez les étudiants, et c'est pourquoi il avait, comme l'a expliqué M. Dos, soutenu le mouvement à ses débuts, mais d'autre part, il dit, mon sens de l'institution. Voilà qui faisait tension en lui, qui fait qu'il était mal à l'aise, c'est finalement assez mal tiré de cette période qui s'est terminée donc en 70. Et en tout cela, donc, j'admire le pédagogue. Il ne parle jamais jargon pour éblouir ou pour qu'on ne comprenne pas et que, donc, du coup, on l'admire davantage. Il est toujours aussi clair qu'il peut l'être. Alors, parfois, c'est difficile quand même. Hein, en tout cas, pour moi, qui ne suis pas philosophe ou théologien, je ne le nie pas. Mais c'est un but pédagogique très remarquable qu'il vise constamment et je trouve ça fait un contraste avec ceux qui philosophent à coups d'oracle ou de jeux de mots, comme il y en a trop, me semble-t-il. Voilà donc ce que j'admire chez Ricoeur. Sur quel point le considérais-je comme un guide, finalement, qui ne fait pas prendre la bonne voie, qui conduit dans des espaces. Bon, je souligne d'abord que je ne dis pas simplement oui à l'homme et à son style et non à ses conclusions. Il y a beaucoup de ses conclusions qui m'ont été très utiles, beaucoup d'apports qui ont été importants pour moi. Et sans doute, ne suis-je pas conscient de tout ce que je lui dois. Des choses qui se sont intégrées comme ça inconsciemment dans l'élaboration que j'ai pu faire. Alors je cite deux ou trois exemples d'apports de contenu philosophique, philosophico-théologique de Ricoeur que j'ai beaucoup apprécié. Donc ne croyez pas que je suis critique à l'égard de tout ce qu'il a pu plaider. Il y a son sens très, très net de la différence entre histoire et fiction. Là aussi, il allait contre un vent qui a soufflé dans les milieux intellectuels. Mais il a eu toujours le souci de dire non, non, non. Il y a un souci de vérité. Alors, comment concevoir cette vérité? Mais il y a un souci de vérité en histoire qui est distinct de la fiction. Il y a des disciplines à partir des archives, des documents, des témoignages, qui fait différer dans son principe, malgré les choses communes, la mise en intrigue par exemple, malgré les choses communes qui fait différer l'histoire de la fiction. Cela, il l'expose à plusieurs reprises, mais aussi dans un des derniers grands livres, La mémoire, l'histoire et l'oubli, publié en l'an 2000. Et je souligne que dans l'avant-propos, il remercie spécialement M. François Doss pour la part qu'il a pu avoir à la rédaction de ce livre. Et aussi d'ailleurs pour l'appareil critique d'un certain Emmanuel Macron. Dans ce livre donc publié en l'an 2000. Il contient une défense de l'originalité de l'histoire et de l'importance de la préoccupation véritative, comme il dit parfois. Un autre signe de son indépendance, et moi je dis c'est la rigueur que j'admire et que j'aime suivre, dans ce livre « Penser la Bible », où il y a des éléments d'André Lacocque, qui, je crois, est européen d'origine. Il a, je crois, enseigné à Bruxelles avant d'enseigner à Chicago, et de Ricoeur. André Lacocque a un chapitre sur le Cantique des Cantiques, où il l'interprète dans une direction d'amour libre. Et dans le chapitre qui lui répond de Ricoeur, Ricoeur résiste très bien en disant que c'est assez anachronique, que cela ne tient pas très, très solidement du point de vue exégétique. Donc là, quelque chose qui pouvait être dans l'air du temps, Ricoeur marque sa distance. Et dans le même ouvrage, il commente le « je suis, qui je suis » d'Exode 3.14, et contrairement à ce qui s'est tellement dit, surtout pas d'ontologie, pas de métaphysique dans l'interprétation de cette parole, Ricoeur montre qu'il y a quand même des choses à en tirer. Aussi, de ce point de vue-là, il se montre remarquablement indépendant, me semble-t-il, à l'égard de choses qui ont été dites un peu par effet de mode. Donc, voilà, il y a chez Ricoeur beaucoup de choses aussi dans ses plaidoyers, ses analyses, que je reprends très, très volontiers. Mais malgré l'empreinte sur ces jeunes années d'un christianisme, un protestantisme évangélique, sa grand-mère était d'origine évangélique. Il le dit dans la critique à la conviction, et il me l'avait dit aussi d'ailleurs quand j'avais conduit en voiture chez lui, et il me l'avait souligné. Il a commencé donc avec une certaine entraîneur, son grand-père non, mais sa grand-mère, il a été élevé par ses grands-parents et par une tante, parce qu'il avait perdu ses parents très très, très jeune. Et il était pupille de la nation. Donc il a commencé de cette façon, il a ensuite été plutôt martyr dans les années 30, mais ensuite, alors après la guerre, il est devenu chef de file du libéralisme par le truchement, je pense, par l'intermédiaire du christianisme social. Il a été très engagé dans le christianisme social dès les années 30, et donc c'est aussi ce qui l'a uni à les penseurs catholiques, le mouvement personnaliste Esprit. Il a été un collaborateur d'Esprit, et l'espèce de phalanstère dans lequel la famille est installée, les murs blancs à Châtenay-Malabry, c'était l'équipe de la revue Esprit. Donc, il a peu à peu évolué, il a subi l'influence de Bultmann, mais en prenant ses distances en même temps, parce qu'il est beaucoup plus riche que Bultmann. Et je trouve que comme critique de Bultmann, précisément sa préface au Jésus est un texte admirable, très très intéressant. Et la différence, il l'a exprimé parfois de cette manière, d'accord pour la démythologisation, mais non pas pour la démythisation que pratique Bultmann. Bultmann expulse le mythe. Et ce qu'il faut, dit-il, c'est expulser le logos du mythe, c'est-à-dire la reprise du mythe dans une construction qui se veut logique, une construction spéculative. Donc, démythologiser, mais pas démythiser. Sur ce point, il se séparait de Bultmann. Et donc, il a continué d'évoluer par la suite, et je pense avec un glissement constant jusque même dans ces dernières années, les derniers lustres. Je pense qu'il s'est éloigné de plus en plus. Pas de manière peut-être très sensible, parce que dès le temps des années 50, il montrait très très clairement qu'il n'était pas question pour lui de croire que le cadavre de Jésus avait repris vie dans son tombeau. La résurrection, il y a une plaquette sur Ebelin précisément, où il dit très très clairement que pour lui, donc comme pour Bultmann et les Bultmanniens, Ebelin étant post-Bultmannien, pas question d'admettre un miracle de ce genre. Non, si le Christ est ressuscité, c'est dans l'Église, la communauté, en tant que ce qui inspire l'Église. Pour le christianisme dit évangélique, c'est-à-dire orthodoxe, quant au concile des premiers siècles, héritier du message de la réforme pris tel quel, le message de Luther et de Calvin, et soucieux de résister à ce qui lui paraît une critique indue, une critique mal orientée des textes bibliques, donc le christianisme évangélique veut maintenir les dogmes les plus traditionnels. Et une lecture qui ne prend pas de distance excessive, qui reconnaît des figures de style, des genres littéraires, mais qui ne prend pas de distance excessive par rapport à la lettre, lorsque l'intention de l'auteur biblique est de parler littéralement, comme l'apôtre Paul au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, quand il dit que si le Christ n'est pas ressuscité, comme plusieurs en ont été témoins, comme il s'est présenté, comme des 500 frères à la fois l'ont vu, alors notre foi est vaine. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes de faux témoins, mais c'est tout. C'est ce que dit l'apôtre Paul, et à quoi je me tiens. Mais là, il est clair que le libéralisme, le modernisme, que Paul Ricoeur a finalement professé, contrairement à Barthes. Barthes a des ambiguïtés sur l'historicité, ce qui a fragilisé sa position, mais il croit quand même réellement à la résurrection de Jésus, comme il croit aussi à sa naissance virginale, ce qui est encore moins admis dans les rangs des libéraux. Et je pense que dans les années 30, Ricoeur, qui était l'ami, le condisciple, si je fais des cours à la faculté de théologie en même temps, de Paris, était l'ami de Pierre Courtial. Pierre Courtial, qui est devenu, donc, pasteur, le doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, avec qui donc j'ai collaboré de manière si heureuse, en particulier pour la revue Ictus. Nous étions ensemble responsables avec Anne-Marie Vérine. Donc, Pierre Courtial, il me l'a révélé une fois comme ça, en disant, voilà, maintenant je fais un journal avec Henri Blocher. Et j'ai fait un journal, une revue avec Paul Ricoeur, dans nos années d'étudiants. Beaucoup de livres ne contiennent pas le renseignement, mais le livre de M. Dosse le contient. Il y a eu cinq numéros de cette revue qui s'appelait Être, qui n'avait pas d'ambition dans son titre, au moins. Donc, Ricoeur est devenu vraiment libéral et à la fin de sa vie. Il n'a en tout cas aucune certitude, et il est plutôt négatif, quant à l'idée de survie après la mort. Le livre, un petit livre qui a été publié avec les papiers qu'il avait laissés, s'appelle « Vivant jusqu'à la mort ». C'est la formule qu'il aimait, et elle reflète bien ce qui est son espérance, peut-être une forme d'immortalité dans la mémoire de Dieu, dit-il. Mais il n'ose pas aller plus loin. D'ailleurs, dans ses papiers, il y a la question « Est-ce que je suis chrétien ?» Il la pose dans les papiers qu'on a trouvés sur son bureau. Alors, je retiens deux problèmes, parce qu'il ne faut pas non plus que je passe mon temps, je ne surveille pas trop, deux problèmes pour lesquels donc, cette orientation de Ricoeur me semble particulièrement dangereuse, malheureuse, et donc j'illustre la possibilité où je me trouve de le suivre davantage en vous présentant ces deux points. Il utilise une formule, je l'avais trouvée autrefois dans un texte publié dans le bulletin du Centre de protestants d'études de Genève. Et puis je l'ai retrouvé dans la mémoire de Saint-Véloï, de croyables disponibles. À chaque époque, il y a des choses qui sont incroyables. Il y a un être incroyable disponible. On ne peut pas sortir de son époque. On est obligé de s'y conformer. Et dans le bulletin du CPE, il le disait à propos précisément de ces maîtres du soupçon. La déconstruction qu'ils ont opérée, Nietzsche, Marx et Freud, du dogme chrétien, on ne peut pas revenir dessus, on est obligé de l'admettre. Donc c'est dans notre situation historique. Il me semble que c'est là une capitulation très très dangereuse. Bien sûr, nous sommes très influencés, nous sommes conditionnés. Mais s'il n'y a pas de manière de transcender, d'échapper à ce conditionnement, alors je pense que la notion de vérité se dissout. Et je crois que Ricoeur l'a senti et qu'il a lutté contre le risque de relativisme. Là aussi, j'ai une citation de ce livre de l'an 2000 qui me semble très significative à ce propos. Dans la mémoire l'histoire d'oubli, page 399, on peut se demander si l'idée de vérité, et aussi celle du bon et du juste, peuvent être radicalement historicisées sans disparaître. Alors, il a manifestement, dans ces pages, lutté pour essayer d'échapper au relativisme total qu'une formule comme celle du croyable disponible implique. Je ne vois pas comment on peut poser la thèse du croyable disponible sans sombrer, sans commencer de glisser, disons, sur la pente fatale du relativisme. Il me semble qu'il n'a pas résolu cette difficulté. Et que c'était lié à cet accueil. Il ne pouvait pas ne pas accueillir les positions défendues par tant de collègues si brillants, si gentils, si intéressants. Et donc, il n'a pas pu résister à cet esprit du monde, pour parler à la manière du Nouveau Testament. Ça, c'est le premier exemple que je prends. Le second, c'est celui beaucoup plus complexe, mais là aussi, il a lutté. Cela concerne le pardon et la base du pardon. Il en traite dans la dernière partie de ce même ouvrage, mais aussi précédemment, assez souvent. Et c'est lié à son refus radical de l'idée de punition par Dieu. Il essaie de trouver toujours son réalisme et sa modération, de trouver une place pour le système pénal entre les humains et l'institution de la justice. Mais pour Dieu, non, surtout pas. L'idée d'un jugement dernier, d'un jugement que Dieu exercerait, lui est en profonde aversion. On sent que là, c'est viscéral, qu'il y a beaucoup, beaucoup de passion dans son rejet du jugement divin. Et du coup, le pardon, donc, ne concerne plus un règlement de dette selon la justice. Dire « je te pardonne », c'est dire « tu vaux mieux que tes actes ». Voilà comment il conclut. Et il souligne que ce pardon doit être inconditionné et qu'il ne requiert absolument pas la demande de pardon ou la repentance. Et sur ce point, il s'oppose à la Bible clairement. Jésus a dit formellement, si ton frère se repent, pardonne-lui. Et le modèle divin, Dieu pardonne gratuitement, mais à tous ceux qui le lui demandent. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas un pardon qui s'étend de soi, simplement à tous les humains. Il y a ce mouvement de la repentance qui n'est pas du donnant-donnant. Rigueur critique en disant c'est finalement le système de l'échange. Pas du tout. La repentance, mais c'est la libération. C'est un don qui va avec le don du pardon. C'est une grâce qui est faite. Elle marque certes qu'il y a une mutualité dans le rapport entre l'homme et Dieu, qu'ils sont dans une relation d'alliance, mais qui ne correspond absolument pas à quelque chose que l'homme donnerait comme en échange. Ça, c'est tout à fait là une lecture déviée de la Bible. Donc, sur le pardon, je pense aussi qu'il n'est pas un guide qu'il faut suivre. Et j'ai parlé juste à l'instant d'alliance. Je pense que ce qui manque dans ces analyses, et en un sens, il l'a voulu, parce qu'il a voulu faire une philosophie autonome par rapport à la foi biblique, c'est le sens du devant Dieu, dans un cadre d'alliance. C'est à partir de là, et de là seulement, qu'il y a ce poids de la faute qu'il faut expier, que Dieu prend sur lui pour l'expier, de telle sorte qu'il pardonne gratuitement, avec une conséquence pour les rapports interhumains. C'est cela, me semble-t-il, qu'il n'a pas voulu prendre en compte et que j'essaierai d'opposer à tout ce que j'ai positivement reçu de lui.
Merci à tous deux. Deux interventions très denses que je ne vais pas me risquer à résumer, à reprendre. Il y a beaucoup entre le philosophe de la bienveillance, le philosophe de la parole et du faire, de l'en même temps. Ce qui me vient d'emblée, mais je ne vous demanderai pas de répondre à cette question, c'est que j'ai envie de dire, et je vais vous laisser tout de suite la parole, hein, puisqu'on a déjà débordé, mais on dirait qu'il a abandonné justement cette question de l'en même temps, quand il aborde la question de la Bible et du rapport à la Bible, puisqu'il rompt finalement entre la question de l'historicité, hein, où d'un seul coup il abandonne, on pourrait dire, cette historicité, et la question la parole, où il accepte l'interprétation et ainsi de suite, mais la quête du sens va plus loin au fond que l'historicité, et là il n'accepte pas finalement
à la fois de dégager un sens du texte tout en respectant le sens donné par le texte et son historicité. Hein. Il retient que le sens du texte, mais pas l'historicité du texte, pas l'histoire du texte. Voilà. Et là, on dirait qu'il y a dans le même temps, il y a une forme de rupture. Enfin, voilà. Je vous laisse tout de suite la parole. Et si vous voulez poser des questions, éclairer certains aspects, c'est donc à vous d'intervenir maintenant. Oui.
Oui, alors je rappelle qu'effectivement, Ricoeur a passé toute la guerre en captivité. Il a été tout de suite prisonnier en tant qu'officier de l'armée française. Vous savez que la bataille de France n'a pas été particulièrement glorieuse en 40. Ah, donc il a tout de suite été fait prisonnier et envoyé en Poméranie orientale dans des Oflags. Qui sont le camp de Grossborn et d'Arnswald, très très loin, donc en Poméranie orientale. Et là il est dans une situation très difficile sur le plan intellectuel, parce que pour les raisons que Henri Blocher a rappelées, il était pupille de la nation, il a perdu son père pendant le premier conflit mondial en 1915. Et ce qui a fait de lui quelqu'un de très pacifiste, et d'un pacifisme passionnel. Il y a plusieurs formes de pacifisme dans les années 30, et puis il y a tout le débat entre les Munichois, les anti-Munichois, etc. Bon. Là-dessus, il a été un peu préservé par son ami André Philippe, qui l'a effectivement préservé de positions trop pacifistes. Et puis, bon, il y avait le contexte de la France, la DDR, jamais plus une telle barbarie, donc une inconscience, d'une certaine manière, par rapport au danger nazi. Et ces textes de 39, 40, etc., sont une espèce de retour un peu sur la question de l'État, et la nécessité, la prise de conscience, mais tardive, que il faudrait peut-être s'armer et voir qu'il y a là un danger du nazisme et du totalitarisme par rapport à la démocratie. Et ce qui a fait qu'il l'a en captivité, mais alors certains lui font un faux procès, évidemment, il a adhéré dans un premier temps au cercle, un cercle qui était dans son camp, qui est le cercle Pétain. Mais Pétain, comme pour beaucoup à l'époque, c'est-à-dire c'était l'attachement au drapeau français, Verdun, etc. Bon, il faut se replonger dans l'époque. Et pour avoir vu dans les archives son carnet de son journal qu'il tenait au camp, il a rompu avec le cercle Pétain tôt, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu novembre 42. Dès le printemps 42, il dit « j'ai plus rien à faire avec ces gens-là ». Bon, idéologiquement, je ne suis pas révolution nationale. Bon. Donc il y a cet aspect hein, dans la captivité. Il y a évidemment un autre aspect, c'est que alors, dans son oflag, il va pouvoir mener toute une activité hein, à la fois de travail sur la Bible, de croyants pratiquants et dans une communauté protestante dans son camp. Il va pouvoir animer une université. Donc il y a, bon, des conditions difficiles, évidemment, de prisonnier pendant ces 5 ans, mais en même temps, une activité intellectuelle qui se poursuit. Et puis, il va, et un courage absolument extraordinaire, alors que Husserl est interdit vu des quelques ascendances juives, il va cacher l'exemplaire des IDN qu'il va traduire, c'est un des grands monuments qu'on a dans les archives, avec les notes dans les marges de la traduction de Ricoeur des IDN dans le camp.
IDL.
Les IDN, les idées directrices de Husserl. Et puis il va effectivement, Henri Blocher l'a dit tout à l'heure, travailler sur Jaspers avec Michel Dufresne, qui fait partie de sa popote, hein, comme il disait, puisqu'ils étaient là, un certain nombre de... certains disaient que c'était la popote des philosophes, et pas que des philosophes. Hein, il y avait un prof d'anglais, d'Albiez, il y avait Paul-André Le Sor, qui est un écrivain, qui aura aussi des responsabilités éditoriales au Seuil, à la Libération, etc. Donc, voilà. Et puis, il y avait Michel Dufresne, et c'est noué une amitié qu'on va retrouver à Paris 10 Nanterre, à Paris 10 Nanterre, là, je parle en nouveau franc, à Nanterre la folie, puisque Ricoeur, dans son département de philo, va recruter Dufresne, comme il recrutera d'ailleurs Lévinas. Donc c'est un moment important que ce moment de captivité, où il va donc faire tout ce travail préparatoire à l'introduction de la phénoménologie en France, et justement en publiant sa traduction des IDN et puis en devenant celui qui va transmettre Husserl, et dans ce moment de la philosophie où la phénoménologie est très importante, elle est restée d'ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire sur la captivité.
Peut-être ajouter quelque chose que j'ai déjà raconté à M. Dossmet. À la fin de la guerre, lorsque les officiers français ont été libérés par la déconfiture complète de la Wehrmacht, les choses se sont passées de façon assez chaotique. Il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas d'organisation, etc. Et donc ces officiers se sont retrouvés par moments dans des camps de regroupement, où il restait là plusieurs jours sans savoir ce qui allait arriver. Et donc Ricoeur s'est trouvé dans un de ces regroupements près de Bergen, près du camp de concentration Bergen-Belsen, et là il a rencontré un jeune pasteur qui avait fait 5 ans de captivité aussi de son côté dans un autre flac, et qui se retrouvait là, qui s'est fait expliquer les courants de théologie de philosophie contemporaine par Ricoeur. Ce jeune pasteur, c'était mon père. Malheureusement, Ricoeur ne se rappelait pas. Mais mon père me l'avait raconté. C'est aussi un élément qui a fait que j'ai regardé du côté de Ricoeur.
Merci pour ce témoignage personnel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors écoutez, je vous propose, si vous avez d'autres questions, de vous approcher de la table. Vous pourrez aussi découvrir les ouvrages, ceux de François Doss, ce documentaire, notamment aussi ce dialogue avec Paul Ricoeur, ceux d'Henri Blocher sur ma droite, où on pourra prolonger les questions, pour profiter aussi de la collation dans la salle à côté, puisqu'il faut qu'on rende la salle à une heure donnée, hein. Donc je me vois contraint de décourter un peu le dialogue qu'on aurait dû avoir, mais n'hésitez pas encore à vous approcher, puis surtout à profiter aussi évidemment de nos conférenciers et de la collation. Vous découvrez aussi le programme des conférences de la librairie Jean Calvin, hein, ici, donc n'hésitez pas aussi à vous en munir avant de partir. Merci à tous.
C'est par le temps.
Bah oui, ouais. En fait, normalement, on doit aller à 10h. Dans un quart d'heure, on va déborder. Mais oui, c'est dommage. On était content de vous avoir.
Ah bah oui, oui.
Ça aurait été dommage.
Oui, mais oui.
J'étais pas sûr de l'heure d'arrivée. Mais...
Eh oui. C'était quoi, le RER qu'est-ce que c'est ou...
Alors, d'après ce qu'ils ont dit, c'était des gens sur la voie, des personnes sur la voie.
Ah bon ?
Qui ont fait que le trafic a été entièrement interrompu du côté de Vincennes.
Est-ce que les...